Vous écoutez France Culture.
Réplique, la mort moderne et la réparation des vivants avec Laura Bossi et Mélisse de Kerangal. Que faire, Nicolas ? Demande un personnage de la pièce de Tchekhov, Platonov. Son interlocuteur lui répond « Enterrer les morts et réparer les vivants ». En effet, l'inhumation est le propre de l'homme et la réparation le propre de l'homme moderne qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer sa condition. Mais qu'arrive-t-il à la vie et à la mort quand le progrès nous permet et même nous enjoint de réparer les vivants avec les morts? Ce problème, tout ensemble intime et métaphysique, est traité par la neurologue Laura Bossi dans son livre « Les frontières de la mort » et par Mélisse de Kerangal dans un roman qui connaît un très légitime succès, « Réparer les vivants ». Une question préalable, Mélisse de Kerangal. Vous êtes écrivain, vous n'êtes pas médecin ni philosophe. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix? Raconter une transplantation cardiaque, raconter la migration d'un cœur d'un bout à l'autre. Et comment vous y êtes-vous pris, Mélisse de Kerangal?
Je me suis intéressée d'abord au cœur. Au cœur comme organe et au cœur dans sa double dimension de pompe, de muscle, donc sa dimension organique, mais aussi dans sa dimension symbolique, dans le sillage de la mort de proches qui mettaient en scène des cœurs qui s'effondrent dans des corps en santé ou au contraire qui continuent de pulser dans des cœurs, dans des corps détruits. Et partant de ce cœur, j'ai cherché, moi, dans cette émotion-là, à donner une forme possible à cette, au fait que j'étais moi-même traversée par une expérience de la mort de proches.
C'est des morts dont vous avez été témoin, hein, c'est ça qui vous
C'est des morts proches de moi.
Très proches, voilà. De vous, oui.
Et du coup, si vous voulez, j'ai cherché évidemment à passer par une forme qui ne soit pas précisément l'écriture de ce que moi je vivais, mais de donner une forme à cette émotion, une forme à cette traversée de la vie à la mort. Et l'idée de la transplantation cardiaque s'est imposée. C'est un sujet qui m'avait beaucoup intéressée déjà en 2007. J'avais écrit un petit texte qui s'appelait « Cœur de nageur pour corps de femme compatible », mais qui était une forme de traçage, alors pour le coup assez technique de cette migration. Ce qui m'a intéressée dans ce roman, c'est de prendre en compte la double dimension du cœur et effectivement de cheminer moi aussi envers un sujet dont je ne savais rien, puisque pour moi finalement j'étais presque une fille d'avant 1959, quelqu'un pour qui finalement la mort était encore attestée, les représentations que j'en avais étaient encore attestées par finalement l'arrêt cardiaque, en tout cas la cessation de l'activité cardio-respiratoire. Et donc pour moi ce livre a été tout un chemin. Et ce qui est très important pour moi, c'est que c'est un livre qui regarde l'angle mort de la greffe, enfin qui essaie de regarder finalement le don, ce qu'il y a derrière tout greffé, vivant, réparé, qui manifeste la puissance de la médecine et peut-être la puissance de la technicité. C'est de regarder ce qu'il y a derrière tout ça. L'angle mort de la greffe, c'est le don. Et si finalement ce trajet, cette trajectoire complexe, mystérieuse de la migration des organes durant la transplantation cardiaque.
Alors, quand vous dites que vous étiez quelqu'un d'avant 1959, c'est effectivement à cette date, vous l'expliquez dans le roman, que la mort prend une signification nouvelle. elle n'est plus le signe de la mort, c'est l'abolition des fonctions cérébrales. Si je ne pense plus, alors je ne suis plus. Déposition du cœur et sacre du cerveau, dites-vous, c'est un coup d'État symbolique, c'est une révolution. Votre livre en raconte les effets et ce récit, l'une de ses grandes réussites, c'est précisément son caractère polyphonique, c'est-à-dire c'est la mort, la tragédie de la mort, vue par, éprouvée par la mère, le père du jeune homme qui meurt dans un accident de voiture, et vous faites le récit après une séance de surf, c'est ça ? Et puis le médecin, l'infirmière, et enfin les chirurgiens qui dissèquent le corps, puis le chirurgien qui transplante le cœur. Et en effet, c'est je crois, l'une des raisons de la beauté de ce livre, c'est qu'on on est nous-mêmes, lecteurs, amenés à intérioriser les points de vue de tous les personnages. La douleur des uns et l'affairement des autres. Et on passe sans cesse de cette douleur à cet affairement. Mais si je vous ai invité, Laura Bossi, c'est que précisément, cette question de la nouvelle signification de la mort vous obsède. J'ai cité votre livre « Les frontières de la mort », mais vous en parlez aussi dans « Histoire naturelle de l'âme ». Alors justement, vous connaissez cela, vous y avez réfléchi de l'intérieur, mais que vous a apporté le livre de Mélisse de Caringal ?
Déjà, j'ai beaucoup apprécié justement que le livre traite du donneur, qu'on oublie souvent, et on oublie toujours les côtés douloureux et sombres de l'aventure des greffes. Je pense que c'est une sorte de déni qui est peut-être nécessaire, mais qui moi, me trouble et me gêne beaucoup. Et d'ailleurs aussi, les difficultés des soignants, des anesthésistes réanimateurs, qui sont beaucoup plus proches, effectivement, du donneur, et qui sont souvent en conflit, d'une certaine manière, avec les transplanteurs, qui veulent transplanter plus. Et donc, il y a aussi, à l'intérieur même de la médecine hautement technique, des divergences d'attitude. L'un considère que le patient, même s'il est déclaré maintenant légalement mort, est toujours un patient, d'une certaine manière. Tandis que, évidemment, les transplanteurs et l'Agence de la biomédecine et tous ceux qui sont intéressés plutôt à la possibilité de greffer des organes ont tendance à considérer, et même ça se traduit souvent dans un langage technocratique qui, moi, me choque beaucoup, à considérer les organes comme des produits qu'on récolte et dont on déplore la pénurie, sans se rendre souvent compte de l'horreur que ça représente. Une pénurie d'organes, ça veut dire qu'on ne meurt pas assez. Et je crois que votre livre est le premier, au moins à ma connaissance, détenté de donner justement ce caractère polyphonique, tout en étant, à mon avis, si je peux me permettre, encore un peu soulignant peut-être un peu trop le caractère héroïque. Il y a quand même une certaine hybris médicale.
Vous voulez dire caractère héroïque de la famille ou plutôt du corps médical ?
Plutôt, pas du corps médical, mais de l'aventure de la greffe en soi. Ouais. Et vous présentez ça comme le jeune donneur est jeune et beau, c'est un héros en effet, et il y a le chant de la belle mort, etc. Donc et ça se comprend tout à fait dans un souci littéraire.
Bien sûr.
Mais
je pense qu'en même temps, je comprends que effectivement c'est l'histoire d'un don.
Oui.
Donc de fait, il y a, même si j'ai essayé de rendre compte par l'intelligibilité qui est celle du roman, c'est-à-dire de personnages et de situations, même si j'ai tenté de rendre compte du fait qu'on est dans une situation qui est vrillée, il y a une torsion terrible que l'on trouve, je pense, enfin, il me semble dans l'entretien que du coordinateur avec les parents. C'est-à-dire que l'entretien, il pénètre dans le coordonnateur pénètre dans cette salle avec un but qui est vraiment de recueillir le consentement, et il est face à des personnes qui, elles, sont satellisées de souffrance. Et si vous voulez, pour moi, il y a une espèce de nœud de langage. Mais pour autant, j'ai quand même essayé, il me semble, dans ce livre, de prendre en compte la violence aussi du prélèvement.
Ça, c'est parfaitement réussi.
Notamment, il y a une opération qui est celle du multiprélèvement, où il y a l'ouverture, l'incision, la dissection, le morcellement. Et si vous voulez, pour moi, et les représentations liées à la violence du multiprélèvement sont, je pense, non esquivées.
Non.
Il reste c'est l'histoire d'un don.
C'est vrai, ce n'est pas esquivé. Et en effet, c'est une chirurgie dont on n'a pas l'habitude. Le chirurgien, c'est celui qui vient sauver des hommes. Et là, ces chirurgiens sont les thoraciques, les urologues, les spécialistes des maladies hépatiques se succèdent. Enfin, ça commence par les urologues. Et ils viennent prélever des organes avec une avidité qui fait peur. Mais il y a aussi autre chose. Mélisse de Kerengal, vous n'esquivez pas le caractère tragique à aucun moment, mais peut-être le mot d'héroïsme n'est pas non plus incongru, inapproprié, parce qu'il y a une difficulté pour nous tous d'accepter que la mort soit la mort cérébrale, car alors là, justement, on n'est pas en présence d'un cadavre. Et la mère voit cet enfant, il est là, sa peau est chaude, c'est son odeur de laine et de coton, odeur de mère. Et en outre, il y a à un moment donné un quiproquo terrible, c'est-à-dire il y a le médecin qui dit il est en état de mort cérébrale, le coma est absolument irréversible. À peine les parents commencent-ils à s'y habituer qu'une infirmière, parce qu'elle est dans une autre trajectoire individuelle, fait ce qu'elle ne doit pas faire, elle se met à parler à Simon Limbre dans le coma. Et elle murmure, là c'est bon, puis elle vérifie la tension. Je vais regarder votre sonde urinaire maintenant, voir si vous avez fait pipi. Donc, elle s'adresse à cet homme dans un coma dépassé, comme si c'était son interlocuteur, et ce faisant, elle bousille, du moins provisoirement, le travail auquel s'essayait le médecin. Et ça, je trouve que le tragique, la difficulté, est affrontée sans aucune dérobade.
Ah oui, Laura Bossi. Je trouve que c'est un des moments les plus réussis et bouleversants du livre. Et en fait, d'ailleurs, ça avait été un peu traité par Almodovar dans deux de ce magnifique film, en particulier déjà.
Quel est ce film? Parce que celui-là, je ne l'ai pas vu.
Ah ben, il traite du problème de la mort encéphalique dans deux de ses films.
Oui, il en parle avec elle, oui.
Tout sur ma mère.
Tout sur ma mère, mais avant aussi dans La fleur de mon secret. Et c'est peut-être celui où on voit justement la mère épleurer, qu'elle ne peut pas comprendre. La mort de son enfant. Mais d'ailleurs, ça se produit encore aujourd'hui aux États-Unis. Il y a une publication toute récente du mois dernier où aux États-Unis, une famille a revendiqué d'amener à la maison une jeune fille de 13-14 ans en état de mort cérébrale. Et les médecins ont laissé la famille reprendre le corps et le garder à la maison. Mmh. Évidemment, si ce concept de mort était tellement évident, c'est la mort légale. Mais ils n'auraient pas fait, ils auraient dit que la famille est folle. Et même aujourd'hui, il y a un consensus très général, mais qui est relativement fragile, parce que tout le monde est d'accord que c'est un point de non-retour, ce sont quand même des cadavres, des morts dans lesquels il reste beaucoup de vie. Et ça, c'est évident, parce qu'on a essayé de trouver justement l'instant où, dans un processus de mort, aujourd'hui on reconnaît que la mort est un processus, et il y a le mourir. La mort est un état, mais le mourir est un processus. Et la mort légale, maintenant, la mort cérébrale, qui est la seule légale en France d'ailleurs, pas aux États-Unis, on reconnaît les deux, est le moment où, et ça a été décidé, et c'est ce qui m'a gênée, d'une manière... à manière non seulement de pouvoir arrêter la thérapie intensive, mais aussi de pouvoir permettre les greffes. Donc c'est le moment où on a
C'est la question.
Ce n'est pas une question.
Non, mais je dirais l'idée de l'ambiguïté, ouais. Si vous voulez, c'est que l'on peut se demander dans quelle mesure cette nouvelle définition de la mort n'a pas été connectée totalement au fait de pouvoir permettre
les grèves. Mais ce n'est pas une question, c'est un fait.
C'est un fait.
Oui, c'est un fait.
Mais si vous voulez, pour les personnes, je veux dire, pour les personnes qui sont vraiment concernées par...
Ça a été reconnu, Beach qui a lancé
oui, oui.
le...
Non, mais ce que, je veux, c'est, ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui, elles, sont confrontées à cette histoire-là, si vous voulez, c'est très compliqué de penser que, voilà, on va déclarer leurs proches morts, alors que, si vous voulez, on est dans différents états. Finalement, la mort qui était auparavant une espèce de pur absolu devient se feuillette dans différents états du corps. Et c'est vrai que pour les parents de Simon Limbe, le héros du livre, c'est d'une violence inouïe, parce qu'il n'y a pas d'aspect cadavérique de leur enfant.
Eh oui,
il est totalement... il respire, voilà. Son corps bat, il est rose. Et donc là, il y a une violence qui joue aussi au niveau des représentations. Et dès lors, c'est vrai que pour moi, ça a été assez compliqué, cheminant dans ce livre, dans un état de... Voilà, je partais quand même d'un point d'ignorance, à mon avis, assez sûr.
Vous avez su la combler. Quand même.
Bon, oui. Écoutez, en tout cas, je me suis réellement intensément intéressée à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, j'ai été moi-même très troublée de me dire, mais alors, du coup, est-ce qu'il y a une manipulation dans cette espèce de définition de la mort ? Au même moment, on voit que des personnes travaillent déjà sur les grèves, tout se passe dans les années, début des années 60, en fait. Et c'est extrêmement troublant. Et de même, si vous voulez, le moment de la communication de Maurice Goulon et Pierre Mollaret en 59, voilà, ils établissent cette idée du coma dépassé, mais qui viserait à dire que la vie d'un homme est logée dans son cerveau, ce qui peut aussi faire question. Vous voyez, tout ça est assez sophistiqué, et très complexe, d'une certaine manière. Et ce que moi, j'essaie de montrer, c'est que dans ce chemin qui est celui du cœur de Simon, on se trouve confronté en permanence à des questions finalement qui sont d'ordre médical, mais aussi d'ordre métaphysique.
Bien sûr, d'ordre métaphysique. Alors justement, je vais vous poser aussi une question à la fois médicale et métaphysique. Vous insurgez-vous au bout du compte contre cette nouvelle définition de la mort, et voudriez-vous astreindre la médecine à des limites draconiennes, alors même qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut sauver des gens grâce à la transplantation. Et d'ailleurs, dans un entretien donné à Transfuge, Mélisse de Caringal, vous citez ce très beau livre de Jean-Luc Nancy, L'intrus. Il n'esquive aucun des problèmes, ni d'ailleurs aucune des maladies qu'il a eues après cette transplantation, mais celle-ci, il avait un cœur qui était fait pour durer 50 ans, et 20 ans se sont passés depuis cette transplantation. Je l'ai invité il y a quelques semaines pour une émission sur Emmanuel Lévinas. Ben voilà, c'est un philosophe vivant, fort heureusement pour nous. Donc, avez-vous une position tranchée sur cette question, Laura Bossi ?
Je pense que non, je ne suis évidemment pas contre les greffes en elles-mêmes, mais je pense que là, on est sur un cheminement, surtout si on considère ça d'un point de vue historique et si on considère l'ensemble des pays, qui va vraiment vers quelque chose de très étrange, c'est-à-dire le fait qu'on considère que les greffes ne sont plus une médecine expérimentale d'une certaine manière. Mais elles sont devenues une routine et on a le droit maintenant d'être greffé, ce qui crée aussi un peu ce sentiment de la pénurie. On étend de plus en plus les indications des greffes et on a tendance à gommer les aspects problématiques et en termes justement éthiques au niveau de prélèvement. Et si j'aurai le temps aussi après, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment un consensus sur le fait que la mort légale, la mort cérébrale, corresponde à un état de mort intuitivement compréhensible par tout le monde. Mais je pense qu'il y a quand même un consensus sur le fait que c'est un point de non-retour. Et voilà. Et donc,
c'est cette idée d'irréversible.
C'est cette idée d'irréversibilité. Oui, oui. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de prélèvements qui sont déjà pratiqués depuis une vingtaine d'années dans nombre de pays, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, etc. C'est-à-dire des prélèvements après arrêt cardio-circulatoire, en particulier chez des patients qui sont des patients qui ont eu des lésions cérébrales catastrophiques et chez lesquels on décide un arrêt des thérapeutiques actives. Ce type de prélèvement représente un nombre important de prélèvements dans ces pays.
Et pourquoi faut-il s'en inquiéter ?
Il faut s'en inquiéter parce que on peut penser qu'il s'agit là d'un retour à l'ancien critère cardiaque. Oui. En fait, ce n'est pas du tout ça.
Au contraire.
Là, ce sont des patients chez lesquels on arrête des thérapeutiques actives, en clair, la réanimation. On attend qu'un arrêt cardiaque très court dans certains cas. Par exemple, dans le premier protocole qui a été développé à Pittsburgh, 2 minutes pour déclarer la mort et ensuite immédiatement passer au prélèvement. Et dans certains pays comme la Belgique et les Pays-Bas, il y a vraiment une sorte de... Les patients sont carrément extubés en salle d'opération. Et il y a une sorte de continuum entre l'arrêt des thérapeutiques et on facilite même, on accélère la mort, l'arrêt cardiaque en administrant des hypotenseurs et du curare, ce qui ne sera pas le cas en France parce que les sociétés des réanimateurs s'y sont vigoureusement opposés. Mais quand même, il y a une tendance vers le fait de considérer que, comme de toute manière, on a décidé qu'on ne réanimera pas ces patients parce qu'on a arrêté les traitements, on sait qu'ils vont mourir. Et donc, on a une tendance à considérer que la mort et l'irréversibilité sont une décision de la médecine. Et ça, à mon avis, c'est un changement de paradigme encore beaucoup plus sérieux et qui devrait être débattu, pas uniquement dans un cadre très, très limité. Maintenant, l'Agence de la biomédecine a déjà élaboré une procédure pour ce protocole qui sera, je pense, débattue en public prochainement. Mais ça a été quand même développé dans la plus totale opacité. Moi, ce que je crains, c'est qu'il y a une tendance générale à considérer que dès qu'il y a une procédure, dès qu'on pense qu'on peut encadrer, de ce moment-là, on moralise le prélèvement, ça devient licite.
Je comprends tout à fait ce que vous dites, enfin, je l'entends très bien, et par ailleurs, dans les rencontres que j'ai pu faire au cours de ce livre, on m'a fait état d'une période assez sauvage, en fait, d'une période, si vous voulez, au début, où emporté peut-être dans un sentiment de surpuissance qui est lié à la médecine, à la technique, etc., on prélevait, si vous voulez, sans aucun cadre et notamment sans aucun rapport, sans aucun geste envers les familles. Enfin, ça se passait un peu dans les couloirs des hôpitaux, c'est ce que me disait le professeur Carpentier. Mais si vous voulez, moi je voudrais juste, sans du tout aller à l'encontre de ce que vous dites, je pense que c'est effectivement une pente dont il faut s'inquiéter, donner un coup de balancier dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui m'est apparu, mais bon, c'est ce que j'ai compris, c'est que il y a effectivement un protocole. Hein, c'est-à-dire que ce qui m'est apparu, c'est que d'abord la transplantation cardiaque s'opère dans un cadre légal extrêmement précis, à partir du moment où une mort encéphalique s'annonce, il y a un premier appel, c'est-à-dire que légalement, le réanimateur doit appeler un coordinateur, etc. Ensuite, si vous voulez, aujourd'hui en France, la mort, elle est légalement décrétée par deux encéphalogrammes plats de 30 minutes chacun, pratiqués à 4 heures d'intervalle. Donc, il y a, si vous voulez, il y a un temps, ou alors par une angiographie cérébrale. Cette angiographie cérébrale, elle atteste, comme ces deux encéphalogrammes plats de 30 minutes pratiqués à 4 heures d'intervalle, elle décrète, ce sont ce qui va attester, ce qui va donner, décréter légalement que l'être est mort. Par ailleurs, si vous voulez, ce qui m'a semblé, en dehors de cette loi, parce qu'on est dans un cadre légal assez complexe, par exemple, pour soi-même, si vous voulez, si vous n'avez pas laissé de consigne, pour en laisser une, il faut s'auto-questionner et à cette question que l'on se pose à soi, répondre non et aller s'inscrire sur un registre national qui n'est pas celui des donneurs, mais celui du refus. Hein. Donc, si vous voulez, il faut dire qu'est-ce que je souhaiterais faire de mon corps et est-ce que je souhaiterais donner mes organes et à cette question répondre non. Quand cette démarche n'a pas été faite, il s'agit donc de rassembler les proches. Et là, j'allais dire pour donner un autre éclairage sur ce que vient de dire Laura Bossi, dont je conteste absolument rien, c'est que, si vous voulez, pour moi, il m'a semblé que la loi ne s'appliquait pas lors de ces entretiens. Oui. Réellement, s'il n'y a pas de consigne donnée et que les proches déterminent en disant « nous pensons que notre proche n'aurait pas souhaité donner », la démarche s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une vraie pratique de l'entretien qui fait que cette pratique, elle aboutit aussi à ce que les entretiens s'achèvent par deux tiers des refus.
Des tiers de refus, à ce moment-là.
Donc ça veut dire aussi que cette idée...
La médecine ne passe pas outre.
Et ça veut dire que, si vous voulez, quelque chose qui est lié à la sacralité du corps pour ses proches, du corps du défunt, pour ceux qu'il aime, pour ses proches, est respecté. Ça veut dire qu'il y a quand même une conscience de ce que c'est qu'un corps humain, et en tout cas, et de même, pour les organes, si vous voulez, on n'a pas une petite fiche à remplir avec, oui, le cœur, oui, le foie, etc. On est censé tout donner. La loi n'est pas restrictive, ce qui est incroyable.
Un peu, oui. Sauf que là, ils ne donnent pas les yeux, quand même.
Mais oui, mais si la famille dit, écoutez, pas les yeux, parce que les yeux, c'est l'âme, parce que les yeux, c'est le passage, etc., ça ne s'applique pas. Je veux dire par là qu'il y a une pratique aussi de l'empathie et que dans la manière dont ce qui se pratique dans les hôpitaux ne correspond pas forcément à, si vous voulez, cette espèce de s'abattre comme des rapaces sur un corps considéré alors comme un stock d'organes. Vous voyez, je veux dire par là qu'il y a une pratique différente qui passe par le langage, qui passe par les entretiens et qui, quand même, il y a deux tiers des entretiens qui s'achèvent par des refus et alors à ce moment-là, la démarche s'arrête. Voilà.
Justement, voilà. D'ailleurs, Laura Bossi, je voudrais vous interroger là-dessus. Parce que d'abord, il y a quelques contre-exemples terribles. Ceux qui ne veulent pas tenir, des familles qui ne veulent pas tenir compte de la mort cérébrale elle-même. Et c'est le destin étrange d'Ariel Sharon en Israël. L'encéphalogramme par la famille, il n'a pas été débranché et il est mort 8 ans après être mort, en quelque sorte. Ce n'est pas non plus supportable. Mais pour en revenir au cas qui nous occupe, le corps réduit un stock d'organes. Nous sommes au summum, en quelque sorte, du règne de la technique, de l'utilisation sans limite, de l'universel interchangeabilité. Bon, on peut se dire, voilà, ça, c'est ce que Heidegger avait décrit, et on a des raisons d'avoir peur. Mais tout se fait autour du don, justement, du moins dans nos pays. On n'en est pas encore au commerce d'organes, même si ça existe sur d'autres continents et si ça risque de se développer. Et alors là, on est à la fois au summum de la technique, mais aussi peut-être dans une démarche qui a quelque chose d'éminemment morale, c'est, si j'ose dire, Heidegger corrigé par Lévinas. Je donne, ou ma famille donne en mon nom, il y a une sorte de sacrifice posthume pour des gens qui vont vivre après moi. Alors, on voit bien quelle critique peut se faire de la technique déchaînée. Mélisse de Carangal vient de montrer qu'elle n'est pas complètement déchaînée, elle s'astreint à un certain nombre de limites. Et puis, d'autre part, il y a le don au cœur de la technique aussi.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mélisse de Carangal. Cependant, nous sommes en France. Et il y a quand même des pays, même voisins, où la pratique est complètement différente. Voilà, sans parler des pays lointains comme en Chine, où il y a quand même à peu près deux tiers des prélèvements qui sont faits sur des prisonniers. Il y a quand même des choses terrifiantes qui se passent. Il y a aussi de nouvelles directives qui viennent d'être publiées par les Canadiens qui essayent justement de pallier le tourisme des greffes en proposant des directives beaucoup moins exigeantes que celles qui sont appliquées en France pour les critères de la mort, pour faire en sorte que chaque pays puisse fournir ses propres organes et éviter ces phénomènes qui sont quand même importants, on ne peut pas les nier. Et même en Angleterre, les critères de la mort sont différents et beaucoup moins prudents que les critères de la mort cérébrale, qu'on appelle d'ailleurs plus comme ça, selon les recommandations, pour ne pas montrer que c'est la mort justement d'un organe, mais que c'est la cessation de la fonction qui prime. Donc ce n'est pas la mort biologique, mais c'est une mort fonctionnelle. Donc je me pose dans une perspective un peu de long terme, et il me paraît que dans cette perspective, on ne peut pas nier que le début, que les greffes ont été à l'origine du fait qu'on a déclaré le coma dépassé comme mort légale. D'ailleurs, ça n'a pas été déclaré tout de suite, mais seulement la déclaration de Harvard date de 68, la déclaration universelle de la mort aux États-Unis date de 81 et elle s'est diffusée dans la plupart des pays dans les années 80, et après effectivement ces malades ont été la principale source lorsqu'ils ont été déclarés en état de mort cérébrale d'organes, lorsqu'on a découvert aussi la possibilité de trouver des médicaments plus efficaces contre les rejets, etc. Donc tout ça c'est assez lent, mais c'est surtout dans les années 90 que dans beaucoup de pays, notamment en Amérique du Nord, se sont développés aussi les dons ou les prélèvements après arrêt cardio-circulatoire contrôlé. Et d'ailleurs, moi, je voudrais quand même rappeler que l'historienne des greffes, Renée Fox, qui a écrit les vrais livres très intéressants qui racontent l'histoire des greffes, et elle a fait partie d'ailleurs, elle-même, c'est un observateur impliqué, parce qu'elle a fait partie du comité de Harvard, elle a suivi tout. Elle est sortie du domaine après un burn-out, comme elle a dit, après les critères de Pittsburgh qu'elle a qualifiés comme, comme du cannibalisme.
Ah oui, elle a parlé du cannibalisme.
Elle a parlé de cannibalisme. Elle a écrit des très beaux livres, The Courage to Fail, au début, qui mettait quand même la lumière sur l'aspect héroïque des greffes.
Mais s'il y a don, après, il ne peut pas y avoir cannibalisme.
Spare parts, non. Mais il faut que ça soit un don et pas un dû.
La question du don et pas un dû.
La question du don, elle est passionnante. Je dirais même on pourrait s'interroger sur ce terme de don déjà. C'est-à-dire que évidemment que, enfin, il me semble qu'il ne s'agit pas d'un don, c'est-à-dire qu'un don au sens de Marcel Mauss. Ça n'est pas un don parce que c'est un geste qui n'organise, du point de vue social, qui n'organise rien. Il n'y a pas de potlatch, il n'y a pas de contre-don, il n'y a pas de domination sociale. Hormis peut-être celle d'une rétribution symbolique qui serait l'attestation de la puissance de la médecine. Mais si vous voulez,
c'est
de ce point de vue...
C'est un don sans contre-don. Donc à ce moment-là, c'est un don superlatif, hyperbolique.
Pour moi, vous avez employé le terme de sacrifice, qui évidemment est intéressant aussi pour le point de vue-là. C'est un terme que moi j'ai rencontré dans ce travail. Il y a une définition qui est donnée par Agamben d'un homme qu'on appelait l'homo sacer, qui est cette personne que l'on met au banc de la cité, hein, dont le meurtre n'est pas puni. Hein, c'est-à-dire que c'est un corps à disposition de la cité. Cette question du don, alors évidemment, on voit bien que la terminologie du don est déjà en soi, en employant cette sémantique, en soi, on moralise. Il y aurait les généreux et les autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre, évidemment, qui attesterait l'idée qu'il faut stimuler, encourager, que ce terme de don, déjà, il porte cet enjeu-là. Pour autant, on peut se dire aussi qu'il y a, je ne dirais pas forcément un don supérieur, mais un geste qu'il faut regarder aussi dans son caractère totalement exceptionnel et totalement à rebours de la privatisation effrénée qui est celle de notre époque. Moi, j'ai pensé aussi qu'à un moment, l'héroïsme, il était peut-être dans le fait qu'à une époque de privatisation effrénée de tout, ce geste qu'on demande aux parents de Simon, donc dans cette fiction qui est la mienne, c'est de déprivatiser le corps de celui qui l'aurait le plus privé et de le remettre à la collectivité. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on
qu'on recollectivise un corps.
Et en même temps, on le remet à la collectivité et on donne quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une personne qu'on ne connaît pas.
En France, il y a une étanchéité totale. C'est-à-dire que Marianne, dans mon livre, a dit mais elle ne pourra pas dire merci. C'est une violence aussi, peut-être, ne pas pouvoir dire merci.
Sans doute. Mais donc, on est à la fois, si vous voulez, ce paradoxe, c'est le règne de l'utilisation sans limite, dit Hans Jonas, et c'est aussi, avec le don, quelque chose d'autre qui se joue là, une sorte d'apothéose autrui quand même.
Il y a quand même aussi quelque chose dans cette idée d'hyperhumanité, d'agonier par de métacorps communautaires, de nationalisation de corps, etc.
Il veut même nationaliser les cimetières, François d'Agonier.
Oui, tout à fait. Il y a quand même une sorte de disparition de la subjectivité, d'oubli de l'importance du corps pour l'individuation. On ne tombe pas amoureux d'un cerveau, on ne tombe pas amoureux d'un corps, d'une peau, des taches de rousseur. Oui. Voilà. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est très troublant. Et moi, je trouve aussi, Kouchner avait parlé de rejet d'altruisme pour ceux qui ne veulent pas donner. Et ça, je trouve,
c'est dangereux, c'est ce que vous disiez aussi.
En Allemagne, par exemple, on demande de déclarer sur ses pièces d'identité, sur sa carte d'identité, si on est donneur ou non. Et je pense que là aussi, il y a déjà une sorte de d'obligation.
En France, précisément, vous voyez, c'est un registre des refus qui est interrogé.
Oui.
La loi est quand même à mon avis, c'est assez intéressant la manière dont ça a été pensé ici. Oui. Et je pense que ça a été fait aussi, ça fait écho à cette terreur archaïque qui est l'idée d'être déclaré mort quand on est encore vivant. C'est l'idée d'arriver à l'hôpital dans un état de coma, avec une carte de donneur qui pourrait penser que vous allez extrêmement rapidement être envisagé comme un donneur potentiel et plus comme un passant à soigner. Si vous voulez, que je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que la carte de donneur, elle est, on peut la porter sur soi, mais elle a pas de valeur.
Elle n'a pas de valeur. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que les réanimateurs et les équipes, etc., ont plutôt tendance, effectivement, à regarder, à vouloir réanimer au maximum, à garder les patients. Donc ça, c'est effectivement,
mais
c'est plutôt
rentable. Mais peut-être que ça va pas durer, ça. Peut-être que...
Non, mais je pense qu'il va y avoir un moment, une sorte de conflit d'intérêts entre le patient et celui qui va recevoir le don, surtout pas pour les cas de mort cérébrale, je pense vraiment pas, mais pour les programmes de prélèvement après arrêt cardio-circulatoire contrôlé, qu'on appelle dans le jargon technique Maastricht 3, selon classification. Je pense que ces risques existent parce que ça devient une sorte de processus. On considère que comme de toute manière la mort est décidée, autant qu'à faire, on va l'optimiser.
Mais ça, je suis d'accord, c'est quand même une pente extrêmement inquiétante, assez angoissante.
Alors moi, je ne voudrais pas parler de la pente glissante nécessairement. Mais du fait, est-ce qu'on a le droit, pour l'intérêt d'un petit nombre de patients et pour un nombre limité de techniciens des greffes, etc., de ne pas considérer d'autres possibles conséquences négatives sur les soignants eux-mêmes? En particulier pour les réanimateurs qui sont souvent dans des conflits,
Des
dilemmes. Ça met en question l'organisation même des départements, les familles et la société en général. Parce que maintenant, il y a de plus en plus d'articles, même en France, qui réclament pour une question de transparence l'abolition de la règle du donneur mort. C'est-à-dire de considérer qu'il n'est plus nécessaire que le donneur soit véritablement légalement mort pour pouvoir enclencher les procédures. Et ça, même des personnes extrêmement bienveillantes, loyales et précises sont tentées de le proposer pour lutter contre une certaine hypocrisie. Et moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a quand même une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir et qui est celle que la mort doit rester quand même...
La mort légale.
La mort légale doit être...
Ça, je serais tout à fait d'accord. Alors, ministre de Carmel, moi, je vois... un autre problème. Votre livre, et si j'ose dire, l'adjectif peut paraître incongru, à force d'être adéquat, si je puis dire, j'ai trouvé votre livre vraiment palpitant. Et je l'ai lu donc jusqu'au bout, avec passion, mais je me suis interrogé à la fin. C'est-à-dire, j'étais exposé d'abord au tragique de la mort, avec la douleur, la décomposition des parents, au dilemme des médecins, et en même temps, ça se termine bien. Et j'étais gêné par le fait que ça se termine bien. J'étais très heureux pour cette femme de 50 ans qui recevait le corps de Simon Limbre. Mais je me suis souvenu, par contraste, de cette très belle, ce très beau développement de Michelet. Dans son histoire du Moyen-Âge, il parle du meurtre du duc d'Orléans en 1407. « Chaque homme est une humanité, une histoire universelle. » Et il dit « C'était une généralité infinie, en même temps un individu spécial, un être unique, irréparable, irréparable, que rien ne remplacera, rien de tel avant, rien après. Dieu ne recommencera point. Il y en viendra d'autres, sans doute. Le monde qui ne se lasse pas amènera à la vie d'autres personnes, meilleures peut-être, mais semblables jamais, jamais. » Ce mot d'irréparable est magnifique. Je me demande si, à force de réparer les vivants avec les morts, on ne va pas se donner le sentiment de réparer la mort. De réparer la mort. La philosophie l'a voulu, avec sa totalité. C'était dans la dernière modalité, c'était Hegel, la philosophie de l'histoire. Chaque mort prend son sens, puisque l'histoire avance, etc. Mais là, c'est la technique qui pourrait retirer à la mort son dard venimeux, ou comme le dit Franz Seinsfeld, à propos de Hegel justement, son souffle pestilentiel à l'Hadès. Et c'est ça, tout d'un coup je me dis, ben oui, tout d'un coup, voilà, la vie triomphe, puisque le cœur a migré, il a changé de personne, mais c'est toujours la vie, on avait dit non, parce que Simon Limbre ne reviendra jamais.
Mais oui, il ne reviendra jamais. La mort est de l'ordre de l'irréparable et je ne pense pas que ce livre dise que autre chose que ça. Si vous voulez, pour moi, il est très clair que la béance, enfin cette espèce de scandale, on entre dans le livre par la mort, c'est-à-dire que c'est une espèce de tragédie à inverser. Hein, la porte d'entrée dans le livre, c'est la mort fatale, c'est le fatum qui frappe cette famille, enfin qui frappe ce jeune homme. Il ne sera pas réparé et d'ailleurs... dans ce livre, il y a un passage sur les sépultures multiples qui étaient pratiquées dès la fin du Moyen-Âge sur les corps des nobles, des princes, des rois et des membres des hautes dynasties. Et si vous voulez, la mère de l'enfant, alors on convoit, il y avait des enterrements de cœur, des enterrements de viscères, il y avait le squelette à Saint-Denis, les viscères dans un monastère et encore le cœur ailleurs. Et si vous voulez, ça me fait penser qu'il y a une dans ce geste-là, il ne s'agit pas de réparer la mort, il s'agit peut-être aussi de lui donner une forme intelligible. Pour moi, il est évident que ce n'est pas Simon Limbre ne se prolonge pas dans ses organes, mais quelque chose de la vie de ses organes est maintenu. Mais le Simon Limbre, il est mort, il ne reviendra pas. Et d'ailleurs, quand elle a cette vision, quand Marianne a cette vision la nuit de la nuit du prélèvement, la nuit de la transplantation, et qu'il y a ce moment où l'on ressaisit ces enterrements de cœur qui avaient lieu au Moyen-Âge. Elle dit, voilà, le visage de Simon apparaît, il est irréductible, c'est lui. Il est irréductible. Il y a quelque chose qui est... La mort est bien, et en tout cas, selon moi, est de l'ordre de l'irréparable. Il ne s'agit pas de réparer la mort. En revanche, sans doute que moi-même, ce livre, je l'ai envisagé, alors là, peut-être comme un espèce de chemin de réparation pour moi-même, c'est-à-dire que ça a été peut-être aussi l'idée de réparer quelque chose dans le scandale qu'est la mort. C'est vrai qu'il y a la mort a aussi un écho de scandale. Et oui. Si vous voulez, ce qui me semble important, c'est évidemment pas de penser que la vie triomphe coûte que coûte et que ce garçon se prolonge et ne mourra jamais. En revanche, il y a une inscription dans la mémoire collective et mnésique qui est donnée par le rituel, parce que ce qui m'a intéressée aussi, c'est de pouvoir écrire et de pouvoir aussi dire que dans ces moments, qui sont des moments de pur processus technologique, etc., s'invitent les rites, s'invitent, voilà, on va faire entendre une musique, on va dire des mots. Bon, il y a ce chant du coordinateur, voilà, qui est un moment de fiction, hein, mais qui n'est pas, si vous voulez, totalement saugrenu. Les personnes avec lesquelles j'ai pu réfléchir sur ce livre montrent quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre du rite qui s'invite dans ces blocs opératoires,
ces moments-là, oui,
pour dire attention, attention, il s'agit d'un corps humain. Et voilà, c'est notre humanité aussi qui se joue là. C'est plus ça. Alors c'est vrai que le livre, il se finit bien dans la mesure où la transplantation est actualisée, si je puis dire. Elle a lieu, le cœur de Simon a rallié le corps de Claire. Pour autant, si vous voulez, pour moi, Simon est mort, il est réparé. On a chanté pour lui ce chant des héros, voilà, du héros grec. Et voilà, il est plutôt pour moi une présence. Il a eu une inscription mnésique dans la mémoire des siens, mais il est mort.
Mais il est mort. Donc là-dessus, Laura Bossi, je vois que vous opinez. Mais alors je voudrais vous poser à l'une et à l'autre une question personnelle, parce que nous sommes tous amenés à nous poser avec cette nouvelle définition de la mort. Qu'envisageons-nous de faire de nous-mêmes, par exemple? Qu'est-ce que vous diriez, vous, à cela? Parce qu'après tout, on subit cette pression, Bernard Kouchner nous demande d'être altruiste, on se demande si c'est un don, si c'est un sacrifice, d'autres le font, on n'a pas forcément envie de laisser nos proches se charger pour nous. Il est vrai que si on meurt extrêmement vieux, nos organes ne serviront plus à rien, mais comment vous résolvez cette question intimement? Je m'excuse de cette question qui peut paraître un peu trop intrusive, justement.
C'est vrai que je ne suis pas inscrite sur le registre des refus, mais c'est vrai que soi-même, et pourtant je ne suis pas jeune, on hésite toujours à se poser le problème. Et on est toujours fataliste, on attend, et voilà, je crois qu'on a, on a tous une grande hésitation devant la question de la mort.
Donc voilà,
moi, je voudrais
c'est vrai.
qu'on puisse peut-être se dire, c'est dit dans cette fiction, dans ce roman, dans la mesure où peut-être sommes-nous chacun des receveurs potentiels, est-il si inenvisageable après tout que l'on ne soit pas des donneurs
bien
potentiels
sûr.
Aussi
oui.
Vous voyez, il y a cette histoire de l'équivalence qui est assez troublante. Moi, on m'a cité, quelqu'un, donc un transplanteur avant-hier me disait que il avait été face à une situation, si vous voulez, où un homme a refusé de donner les organes de sa femme parce qu'on n'en avait pas trouvé pour sa fille. Vous voyez cette idée d'une équivalence. On n'a rien, il n'y a pas de greffon pour ma fille, je ne vais pas donner les organes. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de je reçois, je donne.
L'idée.
C'était assez troublant. Moi, j'estime que, si vous voulez, je ne suis pas non plus inscrite au registre des refus. En revanche, je pense qu'avec ce livre, je manifeste quelque chose qui est un acquiescement au don.
Un acquiescement. Oui. Alors, une question.
Par contre, je peux juste dire quelque chose.
Pardon.
Je pense, un peu contrairement à Maëlys de Keringal, je pense que l'idée de avoir un consentement présumé avec un registre de refus, etc., est sans doute quelque chose qui a été réfléchi pour permettre en même temps
de freiner, oui.
Voilà, et de permettre un maximum de dons et en même temps de éviter des emballements, etc. Mais je dois quand même dire que pour moi, un consentement présumé n'a rien d'un consentement.
Bien sûr.
Parce qu'il n'y a pas d'information et ce n'est pas possible
de la
donner. Et même des personnes très informées, finalement, ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se
présente. Évidemment, c'est cette chose épouvantable qui ne dit rien consent. Enfin, c'est quand même quelque chose d'épouvantable.
Et d'ailleurs,
cela dit,
en 2009, d'ailleurs, il y a eu, et la plupart des personnes ne le savent même pas, et en 2009, quand il y a eu les états généraux de la bioéthique à Strasbourg, il y a eu quand même une réaction des participants très nette contre le consentement
alors,
présumé.
Pour autant, si vous voulez, il m'a semblé que dans le moment de l'entretien,
ah oui,
et on ne prend pas du tout en compte ça. Si vous voulez, ce qu'il faut aussi, ce qui est intéressant, c'est de réenvisager toujours la pratique. C'est-à-dire qu'on demande à des personnes de relire la vie de leurs proches. Alors c'est une relecture qui est peut-être l'amorce d'ailleurs d'une démarche de mémoire. Mais en tout cas, on se
oui,
dit...
Oui, mais en même temps, on demande, je crois, aux parents de Simon Lindre s'il avait des tendances altruistes, s'il était généreux. Et il était dans sa période adolescente ou post-adolescente, qui n'est pas la période la plus généreuse de la vie.
Ben, oui,
les parents disent, ils sont obligés de se constater que non, ce n'était pas son problème.
Mais
en dépit de cela, ils consentent pour lui quand même.
Ils vont consentir pour lui à partir du moment, je pense, où il y a cette idée de où le père va redire qu'il était vivant dans son corps, en fait.
Voilà,
c'est à ce moment-là, peut-être, qu'il y a cette idée de rapport au monde sensible qui est inscrit dans la scène de surf au début du livre,
permet
peut-être d'instaurer un personnage qui soit totalement vivant dans son corps, et peut-être que la générosité de leur fils, elle vient dans cette espèce de rapport à la science.
Alors, une dernière question de science-fiction, très rapidement. Laura Bossi, on transplante tous les organes, évidemment, pas le cerveau. Mais est-ce que, dans un avenir plus ou moins lointain, une transplantation comme celle-là sera concevable? Ou est-ce que ça relèvera toujours du rêve ou du cauchemar?
Je pense que ça relèvera toujours du rêve ou du cauchemar, oui. Ouais.
Bon,
mais
d'accord.
Il y a beaucoup, effectivement, de récits de science-fiction qui imaginent ça, et qui imaginent même des corps reconstitués.
Mais ça n'arrivera pas.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, par exemple, qu'on va peut-être pouvoir se passer de cette histoire de démarche de don pour certains organes qui vont être des prothèses mécaniques. Enfin, on ne l'a pas évoqué, mais si vous voulez, le cœur artificiel. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que du coup, si vous voulez, il n'y a plus... Alors en même temps, demandons-nous ce que signifie au niveau des représentations le fait que notre cœur soit une machine, dans la mesure où c'est aussi le symbole de l'amour dans notre corps. Qu'est-ce qui se passe?
On a déjà des pacemakers.
Non, moi je voudrais juste deux choses. L'une, je pense aussi qu'il faudrait quand même considérer que les greffes ont été une aventure magnifique, mais qu'il y a quand même une sorte d'hybris, et que je pense que le moment est venu plutôt de réfléchir aussi à des alternatives aux greffes, aux cellules souches, amélioration des techniques mécaniques, etc. Et surtout, sur un plan éthique, je pense qu'il faudrait réfléchir au fait que l'intérêt général ne peut pas se mesurer juste au nombre de morts évitées.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. En tout cas, pour nous aider à réfléchir, je vais renvoyer à vos livres, Mélisse de Kerangal, votre très beau roman, Réparer les vivants, aux éditions Verticales. Laura Bossi, je citerai deux ouvrages, Les frontières de la mort, chez Payot, et Histoire naturelle de l'âme, aux presses universitaires de France. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur les sites répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La panthéonisation en démocratie ». Mes invités seront Mona Ouzouf et Philippe Bellaval. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Char et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Thibault. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.